Il est 7h.
On sent qu'on a atteint un palier et qu'il est aujourd'hui nécessaire d'assouplir les critères d'éligibilité pour accéder à la vaccination.
L'heure est-elle venue de généraliser la campagne vaccinale ? Aujourd'hui, certains centres peinent à remplir leur créneau d'injection. Explication dès le début de ce journal. Les vaccins qui continuent de faire l'objet d'un bras de fer entre Londres et Bruxelles, négociations en cours et sommet européen aujourd'hui. Dans ce journal aussi, la candidature de Xavier Bertrand pour la présidentielle de l'an prochain. Et puis, elle n'est ni complètement terrestre ni extraterrestre, une bactérie inconnue découverte à bord de la Station Spatiale Internationale. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et les États-Unis et l'Europe veulent réduire leur dépendance à l'égard de l'Asie dans les semi-conducteurs. Cette reconquête industrielle est cruciale pour notre autonomie technologique.
Suivi du regard international de Vincent Hervouette, de l'édito sport de Virginie Fulpin.
Et pendant que les professionnels jouent, les amateurs trinquent, la crise sanitaire est en train de diviser profondément le sport français.
Et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Est-ce le tournant espéré par les autorités pour accélérer sur la vaccination ? En tout cas, aujourd'hui, fini les embouteillages. Plus besoin d'attendre des mois pour obtenir un rendez-vous en centre de vaccination. Jean-Gabriel Bourgeois, vous avez appelé hier une cinquantaine de ces centres dans tout le pays. Et vous l'avez constaté, hein, il reste des places, tous les créneaux ne sont pas pris.
Effectivement, plusieurs créneaux sont encore disponibles demain, samedi ou même lundi prochain à Niort, Mimizan, Yvetot ou Montélimar. Dans les Hauts-de-Seine, pour la première injection, plus besoin d'attendre 2 mois, mais 1 à 2 semaines, m'a confié un responsable de centre. Et il faut s'adapter, raconte le docteur Cyril Meuch qui vaccine à l'hôpital d'Ussel en Corrèze.
On est obligé de rappeler d'autres patients. Alors rappeler quelqu'un de 80 ans à 19h le soir qui a déjà commencé à aller se coucher, il y a des fois on n'a perdu aucune dose, hein, et heureusement, mais on a galéré. Hein.
Alors pour expliquer ces places libres, plusieurs raisons. La polémique AstraZeneca a freiné les prises de rendez-vous. Il y a davantage de centres de vaccination, de plus en plus de vaccins et de moins en moins de volontaires à vacciner dans les publics concernés, souligne Florian Bouquet, président du conseil départemental du territoire de Belfort.
On sent qu'on a atteint un palier et qu'il est aujourd'hui nécessaire d'assouplir les critères d'éligibilité pour accéder à la vaccination. Je pense qu'on pourrait envisager sereinement la vaccination généralisée et qu'on pourrait l'ouvrir à l'ensemble des publics.
Dès samedi, les plus de 70 ans vont pouvoir se faire vacciner et la campagne va s'élargir mi-avril aux professions exposées comme les enseignants ou les forces de l'ordre.
Et sur les vaccins, dans une interview diffusée hier sur la télé grecque, Emmanuel Macron a comparé l'Europe à un diesel. Ça démarre lentement. Mais ça va loin.
Il y a l'Europe qui ferraille toujours sur la question des livraisons de doses d'AstraZeneca. Isabelle Horry, Bruxelles et Londres négocient depuis plusieurs jours, hein, mais pour l'instant sans succès.
Oui, c'est un vrai bras de fer en fait. D'un côté, les Britanniques, ils ont des usines AstraZeneca. Ils ont exigé qu'elles produisent uniquement pour eux. Mais ils lorgnent aussi sur la production européenne du laboratoire. Et surtout, ils ont besoin du Pfizer fabriqué en Belgique. Ils ont déjà injecté la première dose à des millions de personnes. Ils ont besoin d'urgence de la deuxième. En face, les Européens, eux, ils ont les vaccins Pfizer. Ils en ont exporté plus de 10 millions de doses outre-Manche depuis 2 mois. Et en échange, ils ont reçu 0 AstraZeneca. L'Europe n'a pas vocation à jouer les idiots utiles, s'agace un conseiller de l'Elysée. Bruxelles vient donc de mettre en place un mécanisme pour bloquer les exportations si un pays ne fait pas d'efforts réciproques. Enfin, pour compliquer encore le tableau, pour produire son vaccin sur le continent, Pfizer a besoin de nanolipides fabriqués, devinez où ? Au Royaume-Uni, évidemment. Bref, c'est un peu « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Personne n'a intérêt à tout bloquer, mais personne n'a encore lâché de lest. Joyeuse ambiance post-Brexit, soupire un diplomate.
Ambiance et explication grâce à Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1, les 27 réunis aujourd'hui en sommet européen par visioconférence. En France, ce sont de nouvelles restrictions qui sont attendues. 3 départements pourraient rejoindre les 16 partiellement reconfinés la semaine dernière. Il s'agit de l'Aube, le Rhône et la Nièvre. Restrictions aussi annoncées hier pour tout le pays, cette fois pour les rassemblements extérieurs, pas plus de 6 personnes.
Télétravail, au moins 4 jours sur 5, l'objectif fixé par Jean Castex la semaine dernière pour les entreprises et les administrations. Un objectif qui est aujourd'hui loin d'être atteint du côté des fonctionnaires.
Oui, et des consignes ont donc été passées, hein, Clément Le Saffre, pour favoriser le travail à distance.
Oui, la plupart des fonctionnaires ont reçu un mail en fin de semaine dernière pour leur demander de reprendre le télétravail la majeure partie du temps. C'est le cas de Cécile, elle travaille pour le ministère de la Transition écologique à Lille.
Alors en fait, on doit déclarer nos jours de présence le vendredi, la semaine précédant la semaine de travail en question. Et au bureau, on doit pointer, donc c'est contrôlé, oui.
Cécile s'est donc habituée au télétravail, mais c'est aussi parce qu'elle est bien équipée avec un ordinateur portable et un second écran. Le matériel, c'était le point noir de la fonction publique lors du premier confinement, mais en un an, ça s'est bien amélioré, selon Audrey, membre du service informatique d'un département de l'INSEE à Lyon.
Ah, on est complètement parti de zéro. Ça a été un gros coup de bourre au niveau organisation, enfin, surtout préparation du matériel. Ceux qui n'étaient pas équipés, quand ils disaient qu'ils revenaient en bureau, on se dépêchait de leur faire le transfert pour qu'ils repartent avec un PC portable. Là, je pense qu'on a fait le gros du travail, quasiment 90% des gens équipés en ultra portable.
Alors des progrès qu'il faut quand même relativiser. Un seul 20% des fonctionnaires d'État sont au moins 4 jours par semaine en télétravail. C'est trop peu. Le ministère de la fonction publique veut faire grimper ce chiffre rapidement pour donner l'exemple.
Clément Le Saffre.
7h06 sur Europe 1. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, Xavier Bertrand se lance déjà dans la course.
Il annonce dans le point du président de la région des Hauts-de-France qui sera dimanche l'invité du grand rendez-vous à 10h sur Europe 1. Xavier Bertrand qui entend rassembler à droite autour de plusieurs propositions phares, Aurélie Herbemont.
Oui, il a beau avoir quitté LR, c'est en candidat de droite, social et populaire que Xavier Bertrand se présente avec une promesse, la sécurité des Français, ce sera quoi qu'il en coûte. Parmi ses propositions, rétention de sûreté de 50 ans pour les terroristes condamnés, abaissement de la majorité pénale à 15 ans, exécution automatique des courtes peines de prison, construction de 20 000 places de prison. Il promet aussi des quotas d'immigration en fonction des besoins de l'économie. Xavier Bertrand qui propose également la retraite à 64 puis 65 ans. Il se pose en candidat des territoires et met en avant son passé d'assureur. Ce n'est pas la même chose que banquier d'affaires à Paris ou héritière, dit-il à Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je viens du peuple, martèle-t-il. S'afficher résolument de droite, c'est un moyen de rassurer les élus LR, qui s'était ému de sa bienveillance à l'égard d'Arnaud Montebourg, mais aussi de montrer qu'Emmanuel Macron n'incarne pas la droite, sans oublier d'affirmer que la fermeté ne serait pas l'apanage du Rassemblement national.
Et Xavier Bertrand prévient déjà, je ne participerai pas à une primaire. Jugement attendu aujourd'hui dans le procès des Gilets jaunes, accusés d'avoir saccagé l'Arc de Triomphe en décembre 2018. Hier, des peines de prison aménageables, des travaux d'intérêt général, des amendes et des stages de citoyenneté ont été requis.
C'est le genre d'information qui évidemment stimule toujours notre imagination. On est à la fois entre un scénario catastrophe de science-fiction et une découverte miracle. Écoutez bien, des scientifiques ont identifié à bord de la Station Spatiale Internationale, une bactérie jusqu'alors inconnue.
Oui, parce que la Station Spatiale Internationale fait l'objet d'une surveillance très régulière et cette bactérie a été découverte à l'occasion de prélèvements effectués en 2015 et 2016 lors d'Autriche.
Oui, une souche inconnue au bataillon, une nouvelle bactérie qui ne fait pas partie des 10 000 espèces répertoriées à ce jour. Les scientifiques sont sûrs d'une chose, elle n'est pas extraterrestre. Le scénario le plus probable, c'est qu'un astronaute a transporté avec lui cette bactérie qui s'est ensuite transformée. Elle est résistante puisqu'elle a survécu dans cet environnement unique, dans cette station spatiale qui avance à 28 000 km/h. Ces nouvelles souches ont une particularité, elles semblent aider les plantes à pousser. Et elle pourrait être utilisée à l'avenir pour protéger les plantes de maladies ou cultiver des végétaux dans des conditions extrêmes, le grand froid ou l'espace. En tout cas, dans la Station Spatiale Internationale, 1000 autres échantillons fixés sur des lingettes attendent d'être à leur tour envoyés sur Terre pour être analysés et il pourrait y avoir d'autres surprises.
On n'a donc pas fini de rêver.
Incroyable,
hein, lors
cette bactérie.
Qui...
Vous la voulez sur Terre? Vous voulez qu'elle revienne sur Terre? Je sais pas, je réfléchirai un petit peu.
On l'étudie d'abord.
C'est une petite entreprise française qui espère se faire un nom et dont on va parler à présent. La SMF, basée à Saint-Égrève, c'est près de Grenoble, et qui va livrer tout à l'heure les 12 flèches en métal qui orneront la célèbre Sagrada Familia de Barcelone.
Ouais, ce célèbre monument qui est le plus visité d'Espagne. 12 flèches donc, et de longs mois de travail. Reportage Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
Ce sont elles qui très bientôt orneront les flèches de la Sagrada Familia, Pour cela, il fallait une fabrication très particulière, explique Saverio Maligno, le patron de SMF.
La matière, c'est un inox très dur, chargé à 22% de chrome. Ça a rendu l'usinage très complexe. Pourquoi autant de chrome ? Pour la foudre, pour pas que la cathédrale elle soit électrifiée, on va dire. Mais bon, vu comment elle est dure, la matière, elle va durer des millions d'années. Hein.
C'est par le bouche à oreille qu'a été choisie l'entreprise iséroise réputée pour la qualité de ses fabrications métalliques destinées surtout au nucléaire. Depuis janvier, les 5 salariés de l'entreprise travaillent d'arrache-pied, même la nuit, raconte le patron.
Pendant 3 semaines, toutes les 2h30, 3h, j'étais là, je vérifiais, je repartais à la maison, je dormais et je repartais. En pyjama pantoufle, ça m'a valu d'être arrêté à 2h du matin, fatigué, sans attestation. Il a vu du dépit dans mes yeux, je pense. Il a dit allez-y, j'ai pas été verbalisé.
Aujourd'hui, le résultat est là, estime Salvatore Maligno, 74 ans, âme et fondateur de l'entreprise.
Il y a de la fierté, surtout en disant on y est arrivé jusqu'au bout. Prestige, comme on dit.
Et effectivement, c'est une vitrine incroyable pour la petite société qui, avec les 4 millions de visiteurs annuels de la cathédrale, peut espérer des retombées mondiales. Saint-Égrève, Jean-Luc Boujon, Europe.
Un match du lin partout face à l'Ukraine. Les débuts poussifs des Bleus dans les matchs qualificatifs pour le Mondial 2022. Prochaine rencontre pour les hommes de Didier Deschamps, ce sera dimanche au Kazakhstan.
Merci beaucoup Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Est-ce que vous connaissez le nudge ? Alors c'est un terme, un concept récompensé par le Nobel d'économie il y a quelques années. En français, on parle de coup de pouce ou d'incitation douce. L'idée, c'est de ne pas imposer des choses, mais de pousser les gens dans la bonne direction. Éric Singler est directeur général du groupe BVA et spécialiste français du nudge. C'est lui qui a eu l'idée, par exemple, des expressions première, deuxième, troisième ligne pour distinguer tous ceux qui devaient aller travailler, ceux qui devaient rester chez eux. Que nous disent les sciences comportementales de nous-mêmes, de nos comportements en temps de crise en particulier? C'est absolument fascinant, je vous le promets. Éric Singler est l'invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouette.
Oui, le Royaume-Uni veut réformer son droit d'asile. Ceux qui débarqueront sans être invités seront beaucoup moins bien accueillis.
A tout de suite sur Europe 1, il est 7h11.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos. C'est devenu l'obsession des États-Unis et de l'Europe, ne plus dépendre d'un ou deux pays asiatiques pour leur approvisionnement en semi-conducteurs.
Oui, vous savez, jadis, c'était le pétrole qui était considéré comme la ressource critique pour la prospérité des économies. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les semi-conducteurs parce qu'ils sont partout. C'est la matière première du 21e siècle. Et la crise du Covid a encore accentué notre dépendance à l'égard des puces électroniques, tout simplement parce que cette crise accélère la digitalisation des économies. Or, un peu comme pour les médicaments, dont les principes actifs sont majoritairement produits en Asie, eh bien, les pays occidentaux, États-Unis et Europe, se réveillent et réalisent aujourd'hui à quel point ils sont dangereusement dépendants de pays asiatiques comme Taïwan pour la production de leurs semi-conducteurs.
Alors du coup, les États-Unis veulent reconquérir leur autonomie stratégique en la matière.
Et oui, c'est critique. Et l'administration Biden a d'ailleurs lancé un audit des chaînes d'approvisionnement de plusieurs secteurs stratégiques, au premier rang desquels donc les composants électroniques. Il est clair que dans un contexte de tension croissante avec la Chine, les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'être à la merci d'un fournisseur de puces asiatique pour son industrie. Vous savez, en une génération, les pays occidentaux ont laissé filer une grande partie de cette industrie. En 1990, les États-Unis produisaient 37% des puces électroniques dans le monde. Aujourd'hui, ils ne pèsent que 12%, alors que ces mêmes composants sont infiniment plus sophistiqués et complexes à concevoir.
Mais du coup, je fais un peu le rabat-joie, Nicolas, mais il n'est pas trop tard pour rattraper ce retard ?
Alors, peut-être. En tout cas, le géant des semi-conducteurs américains, Intel, pense que non. C'est pour ça qu'ils viennent d'annoncer hier 20 milliards de dollars d'investissement dans de nouvelles usines de puces électroniques. Intel veut aussi investir en Europe, car nous aussi, nous sommes, même peut-être plus que les États-Unis, dépendants de fournisseurs asiatiques. Il est important, pour certains composants critiques au moins, que nous soyons capables, nous aussi, en Europe, d'atteindre un certain degré d'autonomie technologique. Les puces, c'est le carburant des économies avancées. Nous ne pouvons pas être entièrement dépendants de fournisseurs qui, pour des raisons économiques ou politiques, pourraient demain nous bloquer.
Les semi-conducteurs. Merci Nicolas Barré. Vous parliez du pétrole au début de votre éclairage éco. On a vu cette information, les cours du pétrole plus 6% hier soir. Des craintes sur l'approvisionnement à cause de l'Ever Given, ce navire de 400 mètres de long qui s'est coincé, qui s'est échoué dans le canal de Suez. Il faisait route entre la Chine et Rotterdam et on ne sait pas combien de temps il va rester bloqué.
Oui, vous savez, le canal de Suez, c'est un des nœuds de la mondialisation. C'est c'est 10% du trafic maritime mondial. Alors il suffit qu'il manque certains composants, on le voit très bien, pour bloquer la production un peu partout des usines en Europe. Et puis aussi, presque tout le pétrole russe qui va vers l'Asie passe par le canal de Suez. Et là, je peux vous dire qu'à Tokyo, à Singapour, à Hong Kong, on s'inquiète évidemment de ce blocage.
On se souvient évidemment, on sait la portée historique du canal de Suez. L'enjeu stratégique, encore aujourd'hui, c'est important de le souligner. Merci Nicolas Barré, il est 7h16. Et on vous retrouve, Vincent Hervouette, Le Regard International. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu Béliard, bonjour à tous.
Alors vous revenez, Vincent, sur la réforme du droit d'asile que propose le gouvernement britannique.
Oui, ça fait 3 mois que le Brexit est consommé. Le gouvernement britannique montre qu'il réalise la promesse, qu'il reprend le contrôle. C'était le slogan des Brexiteurs. Take control back. Et c'est d'abord en matière d'immigration qu'il s'agit de reprendre le contrôle. Avant-hier, 183 migrants ont été interceptés avant d'avoir réussi à traverser la Manche. C'est le record depuis le début de l'année. Le printemps commence. Tous sont des demandeurs d'asile, sinon ils seraient renvoyés en France. Et à l'avenir, franchir les 33 kilomètres de mer en échappant aux gardes-côtes ne suffira plus. Ceux qui débarqueront en réclamant l'asile auront du mal à l'obtenir. Et même s'ils y parviennent, cet asile sera provisoire. Il n'y aura pas de regroupement familial, ni open bar pour les prestations sociales. C'est un point essentiel dans le projet de loi déposé par Priti Patel, la ministre de l'Intérieur.
Elle fait une différence entre les demandeurs d'asile.
Oui, il y a ceux qui sont invités, qui entrent par des voies légales et sûres, ceux-là seront bien traités, mieux que les autres, qui s'imposent, qui ont transité par un pays où ils ne risquaient plus rien et qui rentrent au Royaume-Uni comme par effraction. Ça représente en moyenne à peu près 40 000 étrangers, 3 fois moins qu'en France, mais c'est un symbole, le Royaume est souverain, le Britannique maître chez lui. Les conservateurs réforment l'immigration comme promis. Boris Johnson a déjà instauré le visa à points. Il faut désormais être qualifié, parler anglais, bien gagner sa vie pour obtenir un permis de travail. Welcome au petit génie des nouvelles technologies. Le pays investit dans les secteurs de pointe, mais les autres sont indésirables.
L'opposition et des ONG aussi, la Croix-Rouge notamment, dénonce un projet inhumain.
Oui, Priti Patel est étanche aux critiques. Elle accuse les opposants de faire le jeu des passeurs, alors qu'il faudrait au contraire les condamner lourdement jusqu'à la perpétuité. Elle prétend défendre le vrai droit d'asile, celui dont elle a profité quand sa famille indienne a été chassée d'Ouganda par Idi Amin Dada, celui dont peuvent profiter les habitants de Hong Kong qui veulent fuir le despotisme de Pékin. Pour maintenir cette tradition, le royaume doit tout changer. Et pas tourner le dos à la mondialisation, mais s'y adapter. Aujourd'hui comme hier, les Britanniques tiennent par-dessus tout à leur self-control.
Merci Vincent Hervouette, Le Regard International sur Europe 1. Il est 7h19. Dans un tout petit instant, l'édito sport de Virginie Fulpin, ce sera juste avant notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand on rend coup pour coup, on dit œil pour œil, dent pour dent. C'est la célèbre loi du talion. Mais d'où vient cette loi? Je vous le raconte dans un instant.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h21 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les Bleus ont été accrochés par l'Ukraine un partout hier soir. Et pendant ce temps-là, la Fédération Française de Foot a entériné l'arrêt de la saison pour les championnats amateurs. Pour vous Virginie, la crise sanitaire est en train de creuser le fossé entre les amateurs et les professionnels.
Cette pandémie nous divise, c'est valable pour toute la société, mais c'est particulièrement visible dans le sport. Et oui, la journée d'hier en est la preuve parlante. En quelques heures, on a vu les joueuses de l'Olympique Lyonnais battre le PSG 1-0 en quart de finale aller de la Ligue des Champions, les Bleus se prendre les pieds dans le tapis un partout contre l'Ukraine sur la route de la Coupe du Monde. Et pendant ce temps-là, la fédération a dit stop, la saison s'arrête pour les championnats amateurs, comme ça a déjà été le cas dans la plupart des autres sports avant. J'ai l'impression d'avoir vu en une journée se matérialiser le fossé entre les pros et les autres. Il se creuse sous nos yeux sous l'effet de la crise. Il y a un an, tout le sport s'est arrêté, les championnats professionnels et les compétitions internationales, au même titre que le sport du dimanche. Tout le monde était uni dans la même galère. Puis les mois sont passés, la crise sanitaire est restée, le sport professionnel a repris pendant que le sport amateur est resté à quai. Rien de choquant, allez-vous me dire. Heureusement que les pros ont pu retrouver un rythme de croisière malgré la crise. Et on ne peut pas comparer leur situation à celle des amateurs, bien sûr. Mais l'image de ces deux mondes qui se séparent est un effet pervers majeur. Il y a le sport qui se regarde et celui qu'on ne peut plus pratiquer.
Et vous dites, quand vous dites que cette pandémie divise et divise le sport, elle divise même à l'intérieur du monde amateur.
Est-ce que la Fédération française de football avait d'autre choix que d'arrêter les championnats amateurs? Non. Il y a des clubs qui ont joué 3 matchs depuis le début de la saison. On est fin mars, ça aurait été compliqué de caser tout un championnat en 3 mois. D'ailleurs, il y a beaucoup de clubs qui réclamaient cet arrêt. Une saison blanche pour arrêter les frais et préparer au mieux la prochaine. Oublier les matchs pour mettre en place des activités qui vont recréer du lien social. C'est aussi leur rôle. Mais les joueuses et les joueurs n'ont pas forcément la même vision. Eux, ils ont payé leur licence, ça fait 2 ans qu'ils ne jouent pas et certains vont même laisser tomber, les clubs ne les retrouveront pas. Cette crise met à mal le sport amateur, elle dénoue les liens entre les associations et les pratiquants et le sport professionnel ne peut pas rester dans sa bulle sans y prêter attention parce qu'il ne faut jamais oublier que ce sont les clubs amateurs qui sont les premiers à former ceux qui ensuite iront défendre les couleurs de la France dans les grandes compétitions.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était l'édito sport sur Europe 1. 7h23, on retrouve Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, une expression à la fois vindicative et égalitariste. Certaines personnes, pour argumenter le choix de tel ou tel châtiment, aiment à rappeler ce principe œil pour œil, dent pour dent.
Alors, on connaît tous ce proverbe. Hein. Le coupable doit recevoir la même punition qu'il a infligée. On appelle ce principe la loi du talion, n'est-ce pas ?
Exactement. D'ailleurs, talion vient du latin talis, qui signifie tel. Comprenez, tel est la faute, tel est le châtiment, la sentence est équivalente à l'offense. En 1730, avant notre ère, règne Hammurabi, le 6e roi de Babylone. Il va donner son nom à un code écrit sur une stèle affichée en plein centre-ville. Il est écrit que chaque délit reçoit une sanction avec la fameuse loi du talion, et c'est aussi la première fois de l'histoire que l'on parle de présomption d'innocence. Par contre, les peines ne connaissent aucune circonstance atténuante. On retrouve la loi du talion dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Il est écrit « Tu payeras vie pour vie, dent pour dent, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure ». Jésus, dans le Nouveau Testament, va adoucir tout cela en assurant que si quelqu'un te gifle, tends la joue droite. Si quelqu'un veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, donne ton manteau. Si quelqu'un veut te forcer à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui.
Oui, on a changé de politique.
C'est pas du tout la même ambiance, hein, vous avez remarqué. Des notions comme la légitime défense, le pardon, la réinsertion vont bientôt abolir la loi du talion. Pour finir de s'en convaincre, ayons à l'esprit cette parole de Gandhi, si on pratique œil pour œil, dent pour dent, le monde entier sera bientôt aveugle et édenté.
On vous retrouve tout à l'heure à 16h pour Historiquement Vôtre.
Oui, on réunit le génie incontesté du cinéma muet et de la cascade, Buster Keaton, le rebelle Steve McQueen et une bande de malades, les Jackass. Oui, vous l'avez compris, on a pris une assurance pour cet après-midi. Coucou les casse-cou.
Et j'espère qu'on vous retrouve en forme demain matin. Merci Stéphane.
À tout à l'heure.
Il est 7h26, presque, dans quelques secondes. Laurent Cabrol pour la météo, à tout de suite. Il est 7h28 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Ça change, allez, nous retrouvons maintenant nos nuages, nous retrouvons nos petites pluies, elles concernent essentiellement une petite moitié nord, les pluies sont faibles, elles ne vont pas résister bien longtemps, Bordelais, Centre, région parisienne, Picardie Nord, Ardennes, vous serez débarrassés dans l'après-midi, oui, également la Normandie, le Poitou-Charentes, débarrassés, et puis il y aura quand même un brin de soleil sur le littoral méditerranéen, il sera assez rayonnant d'ailleurs, et puis sur le massif central, le sud-ouest et la Franche-Comté. Un peu plus timide. Je n'ai pas cité la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace et la Bourgogne. C'est une faute. Des ondées dans un ciel très nuageux. Voilà ce que je vous envisage, chers amis. En ce qui concerne maintenant les températures, 12 à Langres, 13 à Brest, 14 à Caen, 15 à Nice, 15 à Paris, 16 à Bordeaux, 21 à Bolène, 22 à Nîmes et 22 à Alès. Je vous parlerai tout à l'heure de la suite. Ne lâchez pas trop votre doudoune. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je ne vais pas l'arranger.
On ne va pas l'arranger.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, hein, il est presque 7h30.
Ça y est, elle est allumée, la flamme olympique entame son périple à travers le Japon jusqu'à l'ouverture des Jeux cet été. Mais cette fois, pas de foule ni d'acclamation. Dans ce journal, des formations express d'infirmiers de réanimation pour prêter main forte à des services au bord de la saturation. Le soutien de Joe Biden aux footballeuses américaines. Et puis une chasse au trésor depuis votre canapé avec un véritable butin à la clé. Ça vous tente ? Alors il faut lire L'Or de Sipan qui sort aujourd'hui.
Juste après ce journal, La Touche Âme, c'est Bertrand Chameroy. Le tête-à-tête Europe Matin avec Éric Singler, directeur général du groupe BVA. L'édito politique de Nicolas Bétou.
Je vais vous parler de l'UNEF, ce syndicat étudiant qui a longtemps été une pépinière pour les dirigeants de la gauche et qui est en train de devenir une bombe à fragmentation qui peut détruire la gauche.
Et ce sera juste avant Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 aujourd'hui, l'historien spécialiste de l'immigration et de la colonisation, Pascal Blanchard. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le compte à rebours des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 est lancé. Le flambeau vient d'être allumé au Japon. C'est parti pour un relais de 4 mois à travers le pays, dans une ambiance légèrement différente que lors des précédentes éditions. Corinne Boulou, car face à la pandémie de coronavirus, les organisateurs ont préféré jouer la prudence.
Oui, c'est vrai que les Japonais ont décidé de maintenir le relais, mais avec beaucoup moins de porteurs de flammes que prévu. 10 000, alors que près de 500 000 personnes s'étaient portées candidates. Le relais commence ce matin dans la ville de Fukushima, ravagée il y a 10 ans par un tsunami, symbole aujourd'hui de reconstruction et d'espoir. Alors pour éviter tout risque de propagation du virus, les festivités prévues sont réduites à leur plus simple expression, sans public, mais relayé en direct à la télévision et sur Internet. La flamme olympique va ainsi traverser 47 départements pendant 120 jours. Le public japonais aura alors le droit d'assister au passage de la flamme, mais il est prié de ne pas s'exprimer. Pas d'acclamations, juste des applaudissements. Là encore, Covid oblige dans un pays où la campagne de vaccination a commencé en février. Les organisateurs ont d'ailleurs prévenu qu'en cas d'attroupement trop important, ils se réservaient le droit de modifier le parcours.
Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1, arrivée de la flamme prévue au stade national de Tokyo le 23 juillet.
En France, la situation épidémique continue d'empirer. La Nièvre, l'Aube et le Rhône vont bientôt s'ajouter aux 16 départements reconfinés depuis le week-end dernier. Et les admissions de patients en réanimation s'enchaînent. Et
pour faire face à cette situation critique, les hôpitaux et les cliniques se voient obligés de former à la hâte des infirmiers de réanimation. 3 jours d'apprentissage express pour les établissements de l'APHP à Paris. Et déjà 700 personnes formées. Pierre Herbulot s'est rendu à la clinique Ambroise Paré de Neuilly-sur-Seine.
Des respirateurs qui débordent dans les couloirs. La clinique a poussé les murs de la neurochirurgie pour accueillir plus de patients Covid. 12 lits de réanimation supplémentaires qui nécessitent le renfort de 16 nouveaux infirmiers, comme Héloïse.
Moi, je suis infirmière de bloc opératoire. C'est pas le même métier, en fait. Je ne gère pas toutes les machines qu'on gère ici, je ne gère pas les médicaments. Donc ça a été comme si j'étais retournée à l'école d'infirmière il y a presque 10 ans. J'ai réappris un métier.
Formée sur le tas, au jour le jour, auprès des effectifs capés du service. Au-delà des techniques, ce que retient Maïlis, autre recrue arrivée du bloc opératoire, c'est la violence de son nouvel environnement de travail.
Il y a une grosse charge émotionnelle qui va avec. On parle avec des patients qui sont un peu entre la vie et la mort, qui le sentent d'ailleurs aussi. Ils nous le transmettent et donc du coup ça c'est un truc sur lequel on est moins habitué à faire face.
Des formations express indispensable.
Tout à fait, on ne peut pas faire sans elle. Hein.
Pour l'instant, ça tient, mais l'équilibre est précaire, explique Anissa Amira, directrice des soins de la clinique.
C'est au jour le jour. Hein, je ne peux pas vous dire que jusqu'à la fin avril, on a trouvé tout le personnel. C'est une gymnastique de tous les instants.
En plus des effectifs, l'enjeu pour les équipes déjà épuisées, c'est de savoir si elles vont encore devoir tenir comme ça, à flux tendu, plusieurs semaines ou plusieurs mois.
Pierre Herbulot est pour tenter...
Qu'on nous dise un jour pourquoi c'est maintenant qu'on les forme ces infirmiers en 3 jours express alors qu'on est à plus d'un an de pandémie maintenant.
C'est un débat pour tenter d'enrayer la progression du virus. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, propose d'avancer les vacances de Pâques de 2 semaines. De son côté, la maire de Paris, Anne Hidalgo, préfère une accélération de la vaccination des enseignants. Pour l'heure, celle-ci est prévue à partir du mois prochain.
Cette petite révolution aux États-Unis, la Virginie devient le premier état de l'ancien Sud ségrégationniste à abolir la peine de mort, alors qu'elle possède le record d'exécution sur le sol américain.
Et puis à Washington, l'équipe de foot féminin emmenée par sa capitaine star Megan Rapinoe a été reçue à la Maison Blanche hier pour dénoncer l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Malgré de meilleurs résultats sportifs, les footballeuses restent bien moins payées que leurs homologues masculins. Un combat soutenu par le président Joe Biden. Écoutez.
Peu importe que vous soyez électricien, comptable ou que vous fassiez partie de la meilleure équipe de foot du monde, l'écart salarial est réel. Et cette équipe est la preuve vivante que l'on peut être le meilleur dans son domaine et devoir se battre pour l'égalité des salaires.
Joe Biden qui participera également au sommet de l'Union européenne ce soir en visioconférence. Un signal fort de renouveau des relations entre États-Unis et UE après les années Donald Trump.
Et puis c'est un trésor littéraire qui sort aujourd'hui. Littéralement, puisqu'il s'agit d'un roman à énigmes pour découvrir une véritable fortune.
L'or de Cipane, chez les éditions du Trésor qui portent bien leur nom. Il vous suffit de lire le livre et de décoder tous les indices pour trouver une statuette en or d'une valeur de 50 000 euros. Nicolas Caro.
Premier indice, la jaquette. Une fois dépliée, c'est en fait une grande carte, au trésor évidemment. Le livre en lui-même, c'est le carnet de bord d'un aventurier. Il faut déceler des indices dans le texte, mais aussi dans les marges où l'on trouve des chiffres et des signes étranges. À la fin, il faut reconstituer le puzzle pour trouver l'emplacement du trésor, enterré quelque part en France, sur un terrain public. Mais si vous y parvenez, vous ne tomberez pas directement sur la statuette en or aux yeux d'émeraude. Elle est bien à l'abri. Julien Alvarez, directeur de publication des éditions du Trésor.
On enterrait un coffre qui devra ensuite être échangé contre cette statuette. L'objectif, c'est d'éviter qu'un promeneur du dimanche, un chien un peu aventureux, ou voilà, enfin, d'éviter que quelqu'un tombe dessus par hasard.
De toute façon, même si vous tombiez dessus par hasard, ce ne serait pas suffisant.
Non, le règlement stipule qu'il faut pouvoir expliquer la résolution des énigmes, pour éviter toute fraude, toute tricherie. Il faut pouvoir expliquer qu'on a quand même résolu la chasse selon la règle.
Alors, il faut se lever tôt quand même pour dénicher le trésor. Pour les chasses précédentes, il a fallu plusieurs mois aux joueurs pour résoudre les énigmes.
À Nicolas Caro, et puis un petit mot sur cette action de l'équipe norvégienne de football hier soir qui jouait contre Gibraltar. Premier match de qualification pour le mondial au Qatar l'année prochaine. Action pour dénoncer les conditions de travail des migrants dans ce pays du Golfe. Les joueurs sont arrivés sur la pelouse avec un t-shirt blanc avec cette inscription « Droits humains sur et en dehors du terrain ».
Merci Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h36.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À l'aéroport d'Amsterdam, on a dessiné des petites mouches au fond des urinoirs et ainsi on a incité ces messieurs à viser. Résultat, 80% d'économies sur les frais de nettoyage. Cette technique pour convaincre le citoyen d'adopter le bon comportement, ça s'appelle le nudge. Éric Singler en est le spécialiste français. La communication, il a été missionné pour sa communication en temps de crise. Comment inciter les Français à rester chez eux, à porter le masque, à se faire vacciner avec le moins de contraintes possible entre liberté individuelle et manipulation, disons-le. On en parle dans le tête-à-tête Europe Matin avec Éric Singler. Tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, je suis désolé, j'ai tenté de lui bloquer le passage sans succès. Le dessinateur Viandox sera avec vous.
À tout de suite sur Europe 1, il est 7h37.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de la touche âme avec Bertrand Chameroy, son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu.
Je m'en excuse par avance, chers auditeurs, il a absolument insisté pour être en studio ce matin. Je n'ai malheureusement rien pu faire. Le dessinateur Viandox est avec nous.
Salut la compagnie, attention FNQ, ça va envoyer, c'est moi, c'est Viandox, un sacré coup de crayon, ah, j'ai bonne mine, hein. Regardez calé sur la cul, le strabisme de l'info, j'espère qu'il n'y a pas de fourmilière dans le coin parce que je donne des coups de pied, je préfère prévenir.
Pardon Viandox, mais qu'est-ce que vous faites là ce matin?
Ça fait des semaines que j'essaie de vous joindre Mathieu, mais ça répond jamais, vous avez changé de numéro, non? Donc je suis venu de mon propre chef. Bon, maintenant que je suis là, vous pouvez dites un mot de mon bouquin, là, ça ferait plaisir.
Ah oui, vous publiez « Je fais l'humour à la France » aux éditions Guy Montagnier, une anthologie de vos dessins les plus drôles. C'est un fascicule de 6 pages, c'est ça?
Ouais, d'ailleurs, je suis pas venu les mains vides, vous me connaissez, regardez, qu'est-ce que c'est ça? Ma boîte à valise, un feutre et du papier. Allez, je vous croque un peu les infos de la semaine.
Ah, c'est super sympa de proposer, mais il faut qu'on avance là.
D'accord, génial. Alors, dans la série République Liberticide, Vlatipak Gérald Darmanin nous a appelé à ne pas recevoir ou se déplacer pour Pâques. Super ambiance. Donc, je dessine un bonhomme triste devant sa boîte de chocolat qui dit « Cette année à Pâques, on n'aura que nos œufs pour pleurer. » C'est bien vu ça, non?
C'est excellent. Merci Viandox.
Attendez, j'ai pas fini. Ouais, dites-le si je dérange. Attendez, vous avez peur d'avoir des problèmes, flippez pas, j'assume tout. Allez, autre actu, les rassemblements extérieurs de plus 6 personnes vont être verbalisées. On peut vraiment plus rien faire. Bref, pas plus de 6. Donc je dessine un maire, le maire d'une ville, là, sa petite écharpe tricolore, hop là. Et il dit, pas plus de 6 dehors, bah comment on va faire, nous?
J'ai pas compris.
Le con, bah oui, j'ai pas précisé. C'est le maire de 7. C'est pour ça qu'il dit, comment qu'on va faire à être moins de 6? Attendez, il m'en vient une autre. Il y a un autre maire qui lui répond, en tout cas, nous, on est dans les clous parce que je suis le maire de K6. Cassé, je régale aujourd'hui. C'est bon, open bar.
Allez, ça va faire ça. Bon, on va faire ça ailleurs, hein, s'il vous plaît.
Attendez, une dernière et je m'en vais. En plus, je vous la fais en vocale celle-ci pour bien terminer la semaine. Fini les déjeuners entre collègues à la cantine, vous avez lu ça. Donc là, il y a Céline Dion, seule avec son plateau repas à la cafétéria d'entreprise, qui dit toute seule au self. Je ne veux pas être. Toute seule au self. Allez, je file, hein, Mathieu, je veux pas qu'il vous arrive des bricoles parce qu'avec ce que j'ai balancé là, ça va faire parler.
Vous êtes sympa, mais vous êtes si mauvais, Viandox. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
La touche âme, c'est tous les matins à 7h40. Donc, je connais pas beaucoup de gens drôles, hein, comme Bertrand Chameroy, qui vont faire exprès de mettre leur plus mauvaise vanne à l'antenne. C'est joli. Bertrand Chameroy, 10h, avec Philippe Vandel dans Culture Média tout à l'heure. Merci Bertrand, il est 7h42.
Europe Matin.
le 7-9.
En 2017, le prix Nobel d'économie était décerné aux théoriciens du nudge. Les sciences comportementales ont permis de développer ces techniques dites de coup de pouce en français, d'incitation douce. Comment orienter nos comportements sans nous contraindre? Défi posé au gouvernement du monde entier en cette période de crise sanitaire. Éric Singler est directeur général du groupe BVA. C'est à lui que le gouvernement a confié cette mission. Anticiper le comportement des Français assommés par la crise sanitaire. Éric Singler est l'invité du Tête-à-Tête Europe Matin.
Le Tête-à-Tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Éric Singler.
Bonjour.
Alors ce sont évidemment les nudges qui nous intéressent ce matin et on va beaucoup en parler. Mais d'abord et d'un mot, quel regard porte le communicant, le spécialiste de l'opinion que vous êtes sur les atermoiements du gouvernement, sa communication ces derniers jours?
Tout est complexe dans la situation actuelle. Il y a au moins trois objectifs, un objectif sanitaire, un objectif économique, un objectif de santé mentale et santé psychologique. Donc, de temps en temps, il y a des couacs parce qu'il faut reconnaître que la complexité est difficile à manager. Donc oui, je pense qu'on aurait pu mieux faire pour informer les Français
plus clairement, peut-être.
Plus clairement, oui. Plus directement autour de comportements qu'on souhaite vraiment leur voir adopter pour leur bien.
Les nudges, le coup de pouce, l'incitation douce, les sciences comportementales nous apprennent donc qu'on peut anticiper cette incertitude de la réaction humaine, pousser inconsciemment les gens à adopter certains comportements. Alors, je vais vous poser tout de suite la question finale. C'est pas de la manipulation ?
Alors, on assume qu'il y ait des choix qui soient bénéfiques pour les individus, pour la communauté ou pour la planète. Des choix d'ailleurs qu'on a tous envie de faire. On a envie de faire de l'exercice pour sa santé, on a envie de sauver la planète, on a envie de plus de diversité, etc. Donc, le nudge est puissant à vous aider à passer de vos intentions à un comportement réel. Parce qu'on sait tous que ce qu'on appelle l'irrationalité humaine, nous ne sommes pas des robots, nous pouvons être informé de quelque chose, être convaincu de quelque chose et ne pas le faire. C'est les fameux choix qu'on essaye de se fixer le 1er janvier, que le 15 janvier, on a abandonné.
Je comprends et je lis entre les lignes qu'il faut avoir envie de le faire déjà.
Oui,
c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de... Voilà, on incite, on n'est pas en train de convaincre.
Alors c'est un mot qui est très important en nudge, hein. C'est pour ça que ça s'appelle un coup de pouce. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est puissant à faire basculer les gens qui ont envie de basculer, on encourage et on facilite la décision. Alors, que les gens ont envie de prendre.
On va aller dans le très concret. Par exemple, le vocabulaire, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, c'est vous. Parce qu'il fallait motiver, distinguer tous ceux qui devaient aller travailler malgré la peur du virus.
L'idée de base, c'est d'être clair. Quand vous devez dire à la fois à certains Français « restez chez vous », à d'autres, aller travailler, et au troisième, continuer à nous sauver la vie, ça peut apparaître contradictoire. Comme le président avait parlé de guerre contre le virus, une analogie assez simple était de dire il y a trois lignes de front, donc là on retrouve de la cohérence, et à chacune de ces lignes de front est assignée une mission spécifique. Au personnel médical, sauvez-nous, c'est fantastique. Aux professions dites essentielles, continuez à travailler parce qu'autrement la France ne
Et c'est votre idée d'ailleurs,
pas.
C'est votre idée de les nommer ces gens-là, de les entendre.
Oui, parce que si vous voulez, pour être reconnu comme profession essentielle, quand on est hôtesse de caisse ou quand on est transporteur routier, c'est un peu la première fois qu'on dit qu'on est essentiel à quelque chose. Donc c'était très très important
que le président ou le premier ministre.
Oui, voilà. que ce soit reconnu pour qu'ensuite les gestes qu'on demande d'effectuer soit véritablement effectué. Alors après, c'est un travail d'équipe toujours. Le nudge, c'est de la co-création à partir de la compréhension d'une situation. On part jamais dans le vide, on part de comprendre une situation. Pourquoi des gens qui veulent faire quelque chose ne le font pas? C'est ce qu'on appelle des frictions. On a besoin d'identifier les frictions. Donc c'est une méthode hautement scientifique. Vous mentionnez Richard Thaler, le prix Nobel. Il y a au moins trois prix Nobel qui se réclament de cette discipline. Donc c'est un process, c'est pas de la magie. Comprendre, co-créer avec les utilisateurs et tester avant d'appliquer.
Il y a un pendant négatif, si j'ose dire, c'est que du coup, quelques mois après, vous vous retrouvez avec tout un tas de professions qui sont absolument indignées de ne pas être considérées comme essentielles.
C'est vrai qu'il faut gérer dans le temps, et c'est un des points qui est très important. On avait chacun un rôle à jouer. Là, je crois que le gouvernement appelle à notre sens de la responsabilité. On dit parfois que le gouvernement cherche à infantiliser. Je pense que c'est le contraire. Le gouvernement cherche cherche à responsabiliser les Français. Le nudge, c'est ça. C'est éviter de passer par la loi, éviter de passer par des incitations financières habituelles et en poursuivant l'éducation, parce que éduquer, former, faire comprendre...
Il s'agit finalement d'éduquer.
Mais c'est un exemple, levier supplémentaire.
Un autre exemple, celui de l'application Tous Anti-Covid. On avait du mal à la faire adopter par les Français, votre idée.
Oui, alors l'idée, c'est un, qu'il y ait un service de base, cette application qui nous permet d'alerter nos proches, donc de les protéger. Deux, d'additionner des services qui sont, bah, je peux être informé, qui sont en quelques secondes, je peux télécharger mon application, je peux partager mon comportement. Et maintenant, on est à 14 millions de Français qui ont téléchargé Tous Anti-Covid.
Vous êtes donc l'expert français du nudge et en contrat, enfin, vous travaillez avec le gouvernement sur la lutte contre la pandémie. Très concrètement, ça se passe comment? Ils vous soumettent des cas concrets, des préoccupations particulières et vous planchez dessus. Comment ça marche?
Oui, alors, un, je voudrais faire preuve un peu d'humilité. Vous savez que le gouvernement est conseillé par de multiples instances et on est l'une de ces instances qui
oui, mais vous êtes la Nudge Unit.
Oui, on est la BVA Nudge Unit et on travaille pour le service d'information du gouvernement. Ils nous soumettent tous les 2-3 jours un certain nombre de questions fondamentales qu'ils ont, parce que la crise, c'est une crise comportementale. C'est-à-dire que le vaccin est une solution, mais que les Français, que nous tous adoptions les bons comportements, porter le masque, la distanciation, que moi je préfère appeler physique que sociale, et maintenant encourager la vaccination, bah, c'est des sujets comportementaux. Donc on nous pose des questions, on brainstorm en équipe, on propose des recommandations et ensuite on voit si elles sont appliquées ou
et donc
non.
Tous les 2-3 jours à peu près, j'imagine que c'est une moyenne, la crise a plus d'un an maintenant, mais hier il y avait un conseil de défense, vous avez eu des questions hier?
Non, on n'a pas eu de questions hier. Notre grande question sur laquelle on travaille en ce moment, c'est encourager la vaccination. On sait bien que là c'est un phénomène qui est absolument fondamental, c'est la réponse ultime à la crise.
Et plutôt que de rendre obligatoire d'appuyer dessus.
Exactement.
On va inciter sur le côté positif.
Exactement. C'est pour ça qu'on voit Olivier Véran ou Jean Castex. Nous, on appelle ça l'effet de l'émetteur. Quoi de plus convaincant pour quelqu'un qui est hésitant de voir quelqu'un d'emblématique, alors emblématique au niveau national, mais ça peut être emblématique à son petit niveau, hein, son médecin, son ami, son père se faire vacciner, bah c'est une preuve que ces gens-là ne perçoivent aucun risque. Donc ça, c'est une mécanique importante. La mécanique des normes sociales, dire il y a plusieurs millions de personnes dans le monde qui le font, ça aussi c'est très probant. Ensuite, faciliter l'accès au vaccin. Nous sommes des êtres de friction. La moindre petite friction peut faire passer quelqu'un qui était plutôt positif, plutôt enclin à se faire vacciner et ne pas le faire.
Ben
on va essayer de multiplier les points de décision avec les médecins, les pharmaciens, les infirmières, des centres de vaccination. Dès lors que j'ai une impulsion à le faire, ben je t'aide à passer à l'acte, encore une fois, pour ton bénéfice.
Il y a un message à passer aux Français, et puis on voit la difficulté de cet exercice de façon hebdomadaire, voire quotidienne. Merci beaucoup, Éric Singler, d'être venu nous expliquer comme ça les nudges. J'invite nos auditeurs à se pencher sur la question, parce qu'on les utilise en entreprise, on les utilise en management, on les utilise en marketing, et ces nudges-là, récompensés par le Nobel en 2017, sont là, hein, dans notre vie de tous les jours. Il s'agit d'y voir un peu plus clair. Merci Éric Singler.
Je vous en prie.
Et à
merci
très bientôt.
Beaucoup.
7h51, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'édito politique, Nicolas Bétou, dans quelques secondes, avant de retrouver Nicolas Canteloup. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
L'interview de la présidente de l'UNEF la semaine dernière sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk continue de provoquer des remous. Et c'est au sein même de la gauche que l'affaire se corse.
Ben oui, parce que l'UNEF, cette pépinière de dirigeants socialistes, cette unité d'élevage intensif des consciences de gauche, est en train de devenir une bombe à fragmentation pour cette famille politique.
Tout est parti de l'aveu par Mélanie Luce, donc, que son syndicat étudiant avait effectivement organisé, je cite, des réunions en non-mixité raciale.
Oui, sur la base donc de la couleur de peau et d'une discrimination, un manquement évident aux valeurs de la République que la droite et la majorité présidentielle ont immédiatement dénoncé. Émotion, mobilisation et même Était-ce bien utile ? Demande de dissolution du mouvement étudiant. En tout cas, on était là dans le combat classique, gauche-droite.
Et qu'est-ce qui a changé ensuite ?
Eh bien, depuis quelques jours, c'est la gauche elle-même qui s'étripe. Entre grands anciens de l'UNEF, d'abord, et maintenant carrément entre partis politiques. Alors que Jean-Luc Mélenchon proclame tout son soutien à Mélanie Luce et à ses réunions racisées, le PS, lui, condamne sèchement ses dérives. Et parce que ça se passe toujours comme ça, lorsqu'un désaccord profond fracture la gauche, ils se sont vite accusés mutuellement d'obscurantisme, de trahison des valeurs, de mépris pour l'histoire des luttes. Bref, ça chauffe.
Et est-ce que ça peut avoir des conséquences ? Je veux dire, au-delà de cette querelle sur les réunions racisées ou non ?
Aucun doute, oui. Pendant des décennies, toutes les familles de la gauche se sont toujours retrouvées sur un socle commun, sur des valeurs partagées. Selon que vous étiez plus ou moins à gauche, bon, vous poussiez plus ou moins le curseur sur le social, la redistribution, l'égalité, sur le rôle et l'intervention de l'État. Mais avec toutes ces nuances, la gauche pouvait se rassembler et bien sûr gouverner. Bon, peu à peu, cette unité globale s'est fissurée. Les familles ont commencé à se diviser sur les grands sujets de société. Ça s'est aggravé sous le quinquennat Hollande et c'est ça qui s'accélère aujourd'hui. Sur la laïcité, sur le communautarisme, sur la vision ethniciste de l'histoire, sur le rapport à l'ordre public aussi, sur le respect de l'autorité, le fossé entre ces deux gauche est en train de devenir un ravin. Un dirigeant du PS me disait hier, le schisme idéologique est là et c'est toute l'histoire de la gauche qu'il piétine. Il, bien sûr, c'est l'autre gauche.
Bon, mais ça n'empêche pas de signer des accords électoraux de toute la gauche, par exemple, pour les régionales dans les Hauts-de-France.
C'est un replâtrage à visée purement électorale. Le même élu socialiste m'avouait, on a fait un accord avec des gens avec lesquels on n'est plus d'accord sur rien. Bon, pas sûr dans ces conditions que 2022 s'annonce sous les meilleurs auspices.
Oui, votre édito, c'est tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, merci beaucoup. Et tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Pascal Blanchard, historien, spécialiste de l'immigration et de la colonisation. Et c'est Marine Le Pen qui voulait lui dire un mot.
Oui, ravi, bonjour Monsieur Bétou, Monsieur Cabrol, Monsieur Béliard, bonjour joli métis. Écoutez, c'est formidable, ce matin on va parler enfin un peu d'immigration. C'est vrai que ça faisait longtemps, certes, c'est vrai qu'avec le Covid, on a complètement oublié de parler des migrants. Et donc, sur quel volet votre invité vient-il critiquer l'immigration, celui-là ?
Non, en réalité, il vient exposer une liste de 318 noms pour rebaptiser les rues, 318 noms de personnalités issues de l'immigration.
Oui, comment ça même s'il n'y a pas de nom d'immigrés dans nos rues, nous avons des immigrés déjà plein les rues dans nos villes, allons, c'est pas suffisant franchement. Est-ce que vous voyez, vous monsieur Béliard qui est un fin musicien, est-ce que vous voyez habiter au 39 rue Faudel ? Non, hein, monsieur Bétou au 43 boulevard Joestard, ou, hein, monsieur Cabrol qui habite au 13 avenue Compagnie Créole, non, soyez sérieux, et n'oubliez pas, votez pour moi.
Nicolas Bétou, 43 boulevard Joestar. Celle-là, je la retiens. C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale tous les jours. On retrouve Nicolas à 8h45 pour la revue de presse, qui est l'historien spécialiste de l'immigration, Pascal Blanchard, au micro de Sonia Mabrouk. C'est à 8h15. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Alors pour résumer, nous dirons que c'est très nuageux et pas trop pluvieux sur quasiment toute la France, excepté le Massif central, le Sud-Ouest, la Franche-Comté, le bassin méditerranéen, la région Rhône-Alpes, où là nous avons des chances d'avoir de très belles éclaircies et parfois du soleil. Mais partout ailleurs, prévoyez un passage pluvieux de courte durée, les nuages assez présents, des températures qui vont se situer entre 13 et 21 degrés, vous voyez qu'il fait quand même très doux, même si ce matin il fait froid, les températures presque de saison, oui, de saison. Demain, ça va se gâter encore un petit peu plus, hein. Les pluies seront un peu plus présentes. Et puis dimanche, lundi, mardi, il fera très beau, mais en regardant par le petit trou de la serrure, je vois quand même que le froid n'est pas très loin.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.